Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Et comme toutes les semaines, on est là pour débroussailler un peu l'actualité du moment et vous parler de nos coups de cœur, aussi jeux ou nos coups de gueule éventuellement, mais ça, on verra pour plus tard. Et cette semaine, eh bien, pour ce nouveau numéro dédié à Street Fighter notamment, il était légitime d'inviter la spécialiste du genre, Kayane. Bonjour Kayane.
Bonjour.
Alors, animatrice sur Game One, mais surtout... joueuse professionnelle.
Oui, depuis de nombreuses années, oui. Donc. Ça fait un bon moment, particulièrement les jeux 3D comme Soul Calibur, mais j'ai aussi une bonne période sur Street Fighter 4 et du coup Street Fighter 6 qui sort bientôt.
Voilà, yeah. Tu vas être idéal et pour bastonner face à toi, prendre plein sa tête.
Je n'ai aucune chance.
Pierre Bazin de Combini, bonjour Pierre.
Bonjour Ina,
coucou. Voilà.
Bienvenue.
Merci.
À toi.
Si, merci pour l'invitation. Moi Street Fighter, j'ai moins joué, j'étais plus Smash Bros, mais j'ai toujours aimé spammer des boutons sur lesquels je ne comprenais rien, avec les cousins, les frères.
Alors c'est très bien, j'ai fait un guide justement pour ne pas spammer.
voilà. Tu vois, tu vas ressortir de cette émission, parfait. Tu seras le spécialiste ultime après.
Mais je pense que quand
même... on jouera plutôt l'un contre l'autre, hein. Donc voilà, une émission évidemment consacrée à Street Fighter 6 qui sort cette semaine. On va revenir sur toute l'histoire du jeu, avoir les bons conseils de Kayane aussi pour ne pas être ridicule entre amis. Mais écoutez, hein, c'est le moment, on va attaquer l'actu à chaud. Bon, avant d'attaquer la vraie actu, on va parler de mon actu. Ça n'intéresse pas grand monde, mais je le fais quand même deux secondes. La semaine dernière, on a montré une très très grosse boîte Lego Pac-Man, qui était une nouvelle unité qui sortait dans la gamme Icon. Eh bien, je l'ai montée, chose promise, chose due. J'ai passé mon week-end à monter les 2651 pièces de la borne
sur
arcade.
Son point libre.
Oh là là.
Sur mon... Vive les week-ends de pont. Donc voilà, elle est là. Elle est toute
magnifique.
Belle.
Elle est magnifique.
Elle est quand même magnifique. Ouais. On ne joue pas à Pac-Man. Non. C'est quand même hyper triste, mais voilà, c'est un bel objet de déco avec sa petite manivelle quand même pour activer. Donc là, je voulais vous montrer que
magnifique.
J'avais bien
c'est
travaillé.
C'est vraiment sympa, voilà, ton week-end mis à profit, c'était pas pour rien.
Vous avez de la chance, vous avez la version finale. Ils n'ont eu que la boîte la semaine dernière.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà. Non, bon, c'était un petit point parce que ça sort cette semaine, ce petit kit Lego Pac-Man, 270 euros quand même.
Ah, et combien de pièces ?
2651.
Ah oui, oui, c'est long.
Il y a un peu de temps, hein.
L'été arrivé,
vous avez un peu de temps avant d'aller à la plage pour éviter les coups de soleil. Mais bon, sinon, il y a plus intéressant dans l'actualité que ça. On a appris cette semaine que The Witcher 3 Wild Hunt, oui, n'oublions pas ce jeu qui est sorti quand même
en 2015.
Oh là là,
j'y ai passé tout mon été 2015.
C'est si loin. J'y joue encore cette année.
Mais et bah, écoute, tu n'es pas le seul. 50 millions de jeux vendus.
C'est incroyable.
Quand même, depuis 2015.
C'est fou.
Alors, CD Projekt a annoncé ça dans ses résultats financiers pour dire, hey, coucou, regardez, on a ça. Bon, ok, on a Cyberpunk aussi, il y a un nouveau qui arrive. Mais... Et la saga entière, donc les trois épisodes, en est à 75 millions. Mais 50 millions seulement pour la dernière. Alors, ils ont été aidés parce que, souvenez-vous, fin 2022 est sortie la version next-gen. Mm-hmm. Donc, ça aide forcément d'avoir le jeu sur PS5. Mais ça marche toujours. Ça t'étonne ou pas ?
Bah alors, avec la série qui est passée sur Netflix, je pense que ça a déjà relancé énormément de joueurs. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas passé un cap à 1 million le week-end de la sortie de la série.
Ça a énormément redonné envie.
Ouais,
la
ça
série
a donné à tellement de gens de s'y mettre. Alors moi, j'avais déjà joué dès qu'il était sorti en 2015. J'ai passé des mois entiers à ne faire que ça. L'histoire est incroyable, les personnages aussi. Et bah, tout l'univers qui est créé autour, et puis les livres aussi. Je pense qu'il y a vraiment une licence incroyable qui va perdurer pendant encore de nombreuses années.
La saison 3 qui arrive d'ailleurs sur Netflix à la fin du mois de juin. Toi, tu y avais joué aussi à la sortie ?
Ouais, moi j'avais joué à la sortie et j'avais repris pareil avec la série. Je me dis, ah, c'est vrai que c'était bien. J'avais repris, évidemment, il y avait des offres en plus sur Steam, j'imagine. Et par contre, ce que j'avais jamais fait, c'était les extensions, les DLC qui étaient gratuits.
Oh, ils sont incroyables.
Et qu'en fait, quand j'ai découvert sous le deuxième, là, Wine and Blood,
C'est des jeux à part, en fait.
Après, c'est un autre jeu. Il y a encore plus. Et enfin, j'y passe encore du temps, là, aujourd'hui. Bon, là, il y a d'autres jeux dont on va parler.
Il y a trop de jeux, là.
Il y a trop de jeux.
Mais en vrai, j'ai toujours envie de m'y remettre. Et puis, c'est quand même une série de jeux vidéo qui a même redonné des lettres de noblesse aux livres, parce que les livres qui sont sympas.
Rappelons-le que ce sont des livres
à l'origine. On oublie presque que c'est les livres de Sapkowski, qui sont très sympas hein, d'ailleurs, c'est des nouvelles et tout, c'est assez chouette. Mais les gens pensent d'abord aux jeux vidéo, et puis peut-être après aux livres, à la série, mais c'est complètement fou. Le, 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 En fait, ce que j'aime, moi, c'est que chaque quête, même secondaire, elle est hyper bien écrite.
C'est clair.
Il y a une histoire, il y a du doublage. La VF, elle est super aussi, d'ailleurs. Il y a toujours de l'écriture dans le moindre recoin, en fait. Et c'est, ça, c'est magnifique.
C'est un vrai monde ouvert. Vraiment, tu te balades, t'es à cheval sur Ablette, t'es là, et à un moment donné, t'as quelqu'un qui dit « à l'aide !» Tu peux décider de tracer ta route ou de t'arrêter, et là, il t'emmène mais sur une quête qui dure des heures. Et tu te dis « mais je voulais juste aider quelqu'un qui était paumé, là !»
Et là, t'es perdu dans la quête principale, tu sais plus par où tu dois passer. Ouais, non, mais clair. C'était ça. Hein, c'est...
Ouais.
Je sais que The Witcher, c'est pareil, j'ai un nombre d'heures dessus, je ne sais...
Faut pas compter.
Mais j'ai pas fait la version next-gen, j'avoue que j'avais joué sur la PS4, déjà, je trouve ça super.
Elle est jolie, après... c'est un petit refresh, un petit polish, un petit coup de polish.
On n'est pas dans un remaster ou un remake, comme c'est la mode.
Non, non.
Mais c'est le jeu qui a fait aussi beaucoup pour CD Projekt.
Oui.
Pour leur réputation aussi, qui est vraiment aussi. Donc 75 millions pour l'ensemble de la saga, 50 millions pour celui-ci. Ça en fait le 8e jeu le plus vendu de tous les temps. Savez-vous qui est en tête de ce classement?
GTA
Non.
Non, c'est Minecraft.
Ouais.
Parce qu'avec les versions mobiles, la tablette, tout ça.
Minecraft, on est à 238 millions c'est... d'unités au dernier pointage, donc peut-être plus. L'avantage de Minecraft, c'est disponible absolument partout.
C'est vrai.
GTA en deux. Donc GTA en est, lui, à 180 millions.
C'est pas mal.
Mais bon, après, GTA, il te fait des refreshs et des reversions et de tout, de partout. Numéro 3, c'est Tetris.
Ah bah oui, mais pareil, parce que c'est sur 1000 versions possibles.
Mais voilà, c'est sûr. Alors, voilà, on voit, bon, Wii Sport. N'oublions pas qu'en revanche, Wii Sport n'est que sur une seule console.
Oui, mais par contre...
Et il était vendu avec sur toutes les Wii.
Oui, parce que...
En fait, il correspond au nombre de Wii vendus.
À peu près.
Un peu de la triche.
On a PPG, ensuite.
Ah, PPG,
ça, c'est quand même pas
ça cartonne en Asie. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est pour ça. Après, Mario Kart, sur deux générations de consoles aussi, ça aide, et 150 millions de DLC. Red Dead Redemption, donc The Witcher 3. Red Dead Redemption, pour vous donner une idée, il est à 53 millions.
C'est énorme quand même.
Ah, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit devant Witcher.
Ouais.
Ouais, mais il est quand même. C'est mais il avait été très attendu à sa sortie.
Ouais.
Et c'est vrai
plus
que.
Récent, c'est 2017, 2018
2018. Alors, il avait tellement été reporté que tu me mets un.
Je crois que c'est 2018.
Attends, je vais te dire 2018.
Ouais.
Donc, The Witcher. Et Pokémon de toutes les couleurs, hein, rouge, bleu, vert, jaune.
Tout un bleu.
Tout, donc, lui, on a 47. Et donc, pour. Et moi, j'étais étonnée par le 10e. Terraria, qui est un jeu de 2011.
Terraria,
ouais.
Et alors
moi, je n'y ai jamais joué. Je l'ai déjà vu.
C'est
il
un
est
Minecraft-like,
ouais. Il est disponible absolument partout. Donc ça aide aussi. On le trouve absolument sur toutes les plateformes. Donc il est à 44,5 millions.
Ah ouais.
C'est dingue, j'en ai jamais entendu parler. Je sais même pas à quoi ça ressemble.
C'est très. En fait, c'est une espèce de Minecraft.
Ouais, mais c'est un
côté.
Peu.
Vu de côté.
C'est ça, ouais. Mais c'est surtout disponible partout. Et je pense que ça aide quand tu es sur Nintendo,
fou,
PlayStation. Mais voilà, 44 millions, mine de rien, de ce petit jeu.
Je m'attends. Bah après, c'est vrai que par exemple, des Candy Crush et tout, c'est gratuit, donc ils ne peuvent pas compter le nombre
ça
de ventes.
Pas,
mais, ouais,
mais oui, ça, moi, j'étais étonnée qu'on ne voit pas Fortnite. Mais Fortnite est un jeu gratuit, donc c'est pareil. Je pense que ça se met pas. Mais pas pareil.
En termes d'argent dépensé, je pense que c'est des jeux. Là, il remonte un peu, je pense.
Un autre jeu qui va arriver. Alors ça, j'ai une petite info pour vous.
Ah.
Oh.
Voilà, en avant-première.
En avant-première.
C'est pas une info du siècle non plus. En parlant de jeu qui va arriver sur le multiplateforme et qui avait eu un démarrage très très compliqué, c'est No Man's Sky.
Ah.
Ah oui.
No Man's Sky qui se refait une santé et qui arrive là sur Mac. C'est-à-dire que vous allez pouvoir y jouer. Alors, essentiellement sur les MacBook Air et compagnie Mac Studio de dernière génération, parce qu'avec les puces, les nouvelles puces, on parle tout le temps d'Apple pour avoir des jeux vidéo, parce que les puces M1 et M2 sont extrêmement puissantes. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de jeux. Et donc, celui-ci, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez donc télécharger No Man's Sky. Si vous avez la version Steam PC, vous pouvez basculer sur Mac. Et c'est cross-save et cross-play sur donc, PlayStation, Xbox, partout. C'est un jeu qui vraiment se fait une deuxième vie.
Une troisième vie.
Ouais, là, c'est une troisième vie.
Voilà, il y aura toutes les mises à jour. Vous y aviez joué, Kayane, tu avais joué à No Man's
Non,
Sky.
J'avais entendu parler au début, mais au début, c'était un mauvais lancement.
Il était
buggé. Il y avait beaucoup d'espoir sur plein de choses. Et au final, quand il est sorti, il y avait beaucoup de bugs. Ils n'ont pas abandonné. C'est ça que je respecte beaucoup. C'est que le studio, au contraire, a pris les critiques en compte et a vraiment développé le jeu et est ressorti dans une version quasiment neuve. Et là, du coup, ça avait bien marché. Et je ne m'attendais pas à ce qu'on reparle encore du jeu, encore aujourd'hui.
Le jeu d'Hello Games. Ouais.
Ils ont intégré le multijoueur aussi. C'est ça qu'ils avaient bien relancé. À un moment, ils ont lancé le multijoueur et ça allait... Vraiment, là c'est sorti de ça.
Ouais. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas No Man's Sky, voilà, l'idée c'est cette... et ceux qui nous regardent, vous avez les images. C'est un jeu procédural. C'est-à-dire que ça crée des planètes à chaque fois que vous visitez. Donc, on n'aura jamais tous le même jeu. C'est ça qui est assez drôle. D'où mon interrogation, parce que moi, je n'ai jamais fait le multi. Comment on se retrouve tous sur une planète dans un jeu procédural?
En fait, on invite. Ouais, c'est on ça. On invite un peu dans son monde à soi. Les joueurs, où on partage des choses par... un peu comme dans Death Stranding, il y avait un peu ça, on partage des objets, des choses. Mais moi je trouve ça chouette qu'un studio... effectivement, des fois, les studios se trompent. On l'a vu récemment avec le studio 2 sur le jeu Gollum, qui a fait son mea culpa, etc. Mais quand ils sont sûrs de leur concept, qui s'obstinent, qui s'accrochent au truc, parce qu'effectivement, le concept est génial. Le fait d'arriver sur une planète... Moi, je me souviens quand même la sensation...
J'adore l'idée, moi, quand on arrive.
Du vaisseau qui est en hyper vitesse, qui ralentit et qui vraiment découvre une atmosphère. Et tu te rends compte que tu as une planète où il n'y a que des lumières bleues. Parce que c'est la planète qui est comme ça. Et que chaque truc... Enfin, voilà, chacun crée sa propre histoire. Et du coup, moi, j'avais essayé quand c'est passé au multi. J'avais beaucoup aimé l'expérience, quoi.
Et ben voilà, maintenant, tout le monde va pouvoir essayer. C'est disponible... Donc, c'était sur PS4 à l'origine. C'était une exclue un peu PS4 et PC. C'est disponible sur Xbox One, PS5, Xbox Series, sur Switch. Ça avait été pour moi la surprise, parce que le jeu a l'air tellement gourmand. On s'étonnait sur Switch. Et donc, désormais aussi, sur tous les Mac en tout genre. Et même les Mac Intel, si vous avez une grosse configuration, pour vous dire. Voilà, y a plein de jeux sur Mac. Sachez que Resident Evil Village aussi est disponible. Myst, Cuphead, Disco Elysium, notamment, là, je vous incite, toute la trilogie Tomb Raider, la nouvelle, est disponible. Ah mais il y a plein de jeux, hein, Football Manager 2003. Ils y vont. Mais en fait, le problème, c'est que quand on a des ordinateurs aussi puissants, il faut aussi que les développeurs le sachent et adaptent les jeux. Donc voilà, c'était la petite info du jour, rien que pour vous. On va ouvrir une page baston avec Street Fighter 6. Les amis, je ne te demande pas si tu es à jouer, évidemment, mais raconte-nous l'histoire de Street Fighter qui existe depuis 1987, si je ne me trompe pas.
Oui, c'était en 1987, le premier Street Fighter. On avait Ryu, Ken, on ne pouvait même pas changer le player 1 et le player 2. Hein. On avait Ryu en player 1 et Ken en player 2. Et à l'époque, tu pouvais appuyer sur les touches. Et plus tu appuyais fort, plus ça changeait les touches. Donc, on était obligé de passer comme ça pour pouvoir changer les coups. Et ce qui était marrant, c'est que sur les bandes d'arcade, du coup, il y avait des joueurs qui montaient carrément sur la borne et qui frappaient avec leurs pieds. Et du coup, les bandes d'arcade, elles n'en pouvaient plus au bout d'un moment, donc elles étaient fracassées.
Vous imaginez s'ils avaient vendu la Wiimote en me disant là, si vous la frappez très fort, vous allez mettre des meilleurs coups dans Zelda.
On aurait cassé encore plus de télé.
Non, c'est clair que c'était vraiment un renouveau dans les jeux vidéo de l'époque, et ils imaginaient des concepts comme ça, mais on ne peut pas réagir tout le temps et anticiper les réactions humaines. Donc ça avait commencé comme ça, Street Fighter, avec le premier. Et puis c'est vraiment avec le 2, sorti en 91, mon année de naissance.
Donc, je ne veux dire pas que moi, j'ai joué au 2 quand il est sorti.
Oui, et Street Fighter 2 a eu un énorme succès. Hein. Je crois que c'est 15 millions de ventes. C'est énormissime. À l'époque, ils faisaient vendre les Super Nintendo comme des petits pains. Et ce qui est chouette, c'est qu'encore aujourd'hui, quand on parle aux gens qui sont nés dans ces années-là, quand on leur demande quel est leur premier jeu vidéo, souvent c'est Street Fighter 2.
C'était énorme. Et puis, qu'il y a eu des déclinaisons à n'en plus finir.
Ah oui, après, il y avait des noms. Champion Edition, les Primes, Alpha.
Pendant 10 ans, ils ont.
Le crossover avec Tekken.
Ah oui, il y avait Street Fighter Cross Tekken. En fait, il y a toujours une bonne relation entre Namco, Bandai Namco et Capcom. Et du coup, Yoshinori Ono et Arada, qui étaient les producteurs de Tekken et Street Fighter, ils s'entendaient très bien. Ils allaient souvent au bar ensemble, au restaurant. Et ils se disaient, pourquoi ne pas faire un jeu de combat crossover ensemble plutôt que de se voir comme des concurrents. Ils avaient envie de créer une symbiose, une synergie et un jeu ensemble. Mais il n'y a que Street Fighter Cross Tekken qui est sorti. Il devait y avoir un Tekken Cross Street Fighter qui finalement n'a jamais vu le jour.
Non, jamais fait.
Et surtout que Ono-san de Capcom est parti. Et du coup, ce projet qui était entre les deux n'a jamais abouti. Mais on a tout de même on a Akuma de Street Fighter qui est dans Tekken 7 en personnage invité, qui est jouable et autorisé en tournoi, etc., qui fait pas mal de bruit d'ailleurs parce qu'il est très fort. Mais c'est un peu le crossover Tekken Street Fighter actuellement.
Qu'est-ce qui a fait pour la renommée de Street Fighter? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu dis, alors le 2 évidemment, mais Street Fighter, tout le monde connaît le nom, même ceux qui n'y jouent pas. Le nom connaît.
Déjà, il y a le film avec Jean-Claude Van Damme.
magnifique film avec Jean-Claude Van Damme.
Qui est un art culte quand même.
Et Kylie Minogue. Voilà.
Et oui, c'est vrai.
Kylie Minogue, qui était au top de sa gloire à l'époque, qui joue dedans quand même. C'était...
Je trouve qu'il y a un côté aussi, c'est très produit des années 90, notamment, c'est très lié au rap, Street Fighter, même déjà les premières, au hip-hop, au rap aux États-Unis.
On voit des images là derrière nous.
Non, mais déjà la bande-son était assez rap quand même, enfin assez hip-hop en tout cas, et même l'esthétique et choses comme ça. Et en fait, les rappeurs en parlent en France. Le nombre de rappeurs qui font référence à Street Fighter dans leurs textes encore aujourd'hui, je pense à PNL. PNL, ils ont carrément un son qui s'appelle Blanca, qui est un personnage de Street Fighter qui est mon personnage préféré. Parce que je savais spammer l'électricité.
L'électricité,
j'avais appris, donc c'était le seul truc que je savais faire. Mais non, enfin, il y a vraiment un côté un peu contre-culture aussi de l'époque, et je pense que ça a beaucoup joué. C'est un jeu qui repose aussi sur des codes américains, donc évidemment, une esthétique plus américaine pour beaucoup de personnages, en tout cas dans les décors, tout ça. Et donc ça a parlé aussi beaucoup aux États-Unis, j'imagine, puis après en Europe. Et puis c'était sur tellement de consoles, enfin c'est facile quoi. Street Fighter, c'est Street Fighter quoi, c'est le
jeu à deux, le jeu que tu peux jouer en famille, entre amis, les bonnes soirées entre potes et tout. Généralement les gens ils parlent de Street Fighter,
le bon des fouloirs,
le bon des fouloirs en un contre un, et les bons moments en fait qu'on peut avoir quand on joue à un jeu vidéo qu'on peut partager.
Alors tu parlais des États-Unis, je pense que Kayane le sait ça, mais les noms des personnages ont été changés en passant de l'Asie aux États-Unis, notamment Bison.
Il y a Bison, Balrog, Vega.
Qui ne devait pas être le dictateur à l'origine.
C'est ça. C'est un truc de fou parce que même moi, je ne sais même plus dans quelle version on parle. Mais Bison, en effet, c'est le personnage dictateur. Vega, c'est celui qui a les griffes et son masque. Et Balrog, c'est le boxeur. Et en fait, dans la version japonaise, ils ont inversé.
Bison, donc, que nous on appelle Monsieur Bison, donc ça se met M Bison. Était le boxeur. Et en passant aux États-Unis, Capcom Amérique s'est dit « Ouh là là, on va peut-être avoir des problèmes avec Mike Tyson, qui va y voir une espèce de ressemblance. » Donc, par sécurité, ils ont anticipé, mais il fallait changer les noms. Et alors là, qu'est-ce qu'on faisait des autres? Parce qu'ils voulaient prendre des noms qui existaient déjà dans la version. Et c'est pour ça, en effet, qu'on connaît Bison le dictateur, Vega pour le ninja. Parce que le ninja, c'était...
Vega, c'est c'était Balrog.
C'était Balrog.
Ouais, c'était Balrog.
Ils ont inversé tous les noms pour être tranquilles, quoi.
Oui.
Et Mike Tyson, qui était dans Knockout Punch, le vieux jeu de Nintendo, tout ça. Mais je crois que c'est pareil, c'était pas officiel. Ils l'avaient. Donc, c'était pour ça, ils se sont dit, on va éviter d'avoir Mike Tyson sur le dos, c'est pas quelqu'un à chercher.
35 ans plus tard, donc on a le droit à un Street Fighter 6. Ça marche toujours, Street Fighter. Mais
ça
pourquoi
marche. Alors déjà le 5 qui était sorti en 2016 a vraiment beaucoup moins marché que précédemment. Ils ont eu un lancement assez catastrophique. Je pense qu'il y a eu pas mal de pression parce que c'était une coproduction entre Sony PlayStation et Capcom.
Exclusivité
PS4 et PC. Le truc c'est que il y avait quand même un calendrier à respecter et Street Fighter 5 était sorti beaucoup trop rapidement. Donc il y avait pas un véritable mode histoire, arcade. En fait, tous les modes solo, finalement, qu'on recherche aussi dans un jeu comme celui-ci, on ne les retrouvait pas. Ils sont sortis un an plus tard et après, il y a eu plein de mises à jour et tout pour corriger le jeu et rajouter du contenu. Et finalement, c'est des années plus tard, après plusieurs season pass et tout, qu'on a enfin un jeu complet. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs se sont désintéressés de la saga pendant cette période-là. Sauf que là, Street Fighter 6, du coup, 7 ans plus tard, après le 5, revient en force. Et Capcom a bien compris de ses erreurs. D'ailleurs, toute l'équipe de production a changé. C'est plus Ono-san qui est maintenant à la prod. Et on a deux producteurs. Un qui est plus expérimenté, plus mature. Et un plus jeune qui a justement cette vision très street art, très hip-hop. Et qui vraiment s'intéresse à la nouvelle génération de joueurs. Et donc, cette vision plus jeune, finalement... permet d'attirer une nouvelle génération de joueurs sur Street Fighter 6 et pas d'intéresser que les anciens.
C'est vrai que ça se sent, je trouve, sur la DA, ce côté... Alors, on revient vraiment à l'essence qui était quand même un jeu de combat de rue. Et il y a cet environnement, en fait, de rue.
En fait, je trouve que dans le 6, le street reprend du sens. Le street de Street Fighter est de retour, que ce soit dans les musiques, qui sont très rap, le côté un peu BD, tag, même dans certains combos, dans les dives et choses comme ça, qu'on voit là à l'image. Il y a ce côté... ils ont vraiment, comme tu disais, ils ont vraiment retrouvé... pour les gens à l'ancienne, côté notamment DA, côté graphisme et trucs comme ça, donc ce côté, enfin même du tout premier Street Fighter où littéralement on se battait dans la rue, là dans le mode solo on se bat dans la rue de la même manière, et en même temps le côté aussi pour les débutants, ceux qui veulent s'initier, qui ont entendu parler de la légende Street Fighter, mais bon c'est trop compliqué, je préfère Smash, je préfère Mortal Kombat ou des choses comme ça, et là plutôt côté gameplay avec les commandes modernes, les commandes dynamiques qui sont une autre manière d'appréhender le jeu sans avoir à apprendre à faire des cartes de cercle forcément, pouvant jouer avec des manettes normales et choses comme ça, et je trouve ça c'est bien joué en fait, enfin on sent qu'ils ont écouté, qu'ils ont patienté, qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça avec attention, ils ont osé aussi je trouve, parce que il y a des le graphisme je pense pèse pas forcément à tout le monde parce qu'il y a un style, il y a une patte,
c'est un peu on s'attend pas à ça aujourd'hui sur la PS5.
D'accord, ouais. C'est soit enfin, tu les... aimes, soit t'aimes pas.
Les nouvelles générations, on s'attend pas à ce...
Mais moi, j'aime bien qu'ils osent, du coup. C'est plus chouette d'oser plutôt que de se référer à quelque chose d'un peu réaliste qui plaît à tout le monde. Ce qui est peut-être aussi déçu dans Street Fighter 5. Street Fighter 5, c'était très
un peu passe-partout, un peu terne. Il n'y avait pas vraiment d'identité visuelle.
Là, il y en a une. J'ai vu qu'il y a des gens qui n'aimaient pas du tout. Bah c'est bien, au moins ça crée le débat. Enfin, mais c'est pas moche.
En fait, il y a beaucoup de gens qui disaient que ça fait effet Splatoon.
Il y a un peu un côté cartoon. Je trouve plus qu'on n'avait pas sur les précédents.
Mais je pense que justement, quand on a un parti pris et qu'on y va à 300%, c'est comme ça qu'on marque les gens, justement. Et ils ont même rajouté plein de nouveaux personnages qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont un style de combat différent, très différent des anciens. Et ils ont vraiment pris des risques aussi à ce niveau-là parce que tous les méchants, on parlait de Balrog, Vega, Bison, tout le groupe Shadaloo des méchants n'est pas disponible actuellement. Et on ne sait même pas si... alors, pas le premier, parce qu'on sait qui sont les prochains, mais en tout cas, ils ont vraiment pris ce risque-là de décevoir même des anciens joueurs, mais au profit de plein de nouveaux personnages qui ont chacun leur propre identité, qui sont déjà très bien accueillis par la communauté. Et ça, ce n'était pas gagné, mais ils ont un tel charisme, une telle personnalité et aussi des coups très stylés qu'on s'y fait et que ces nouveaux personnages vont aussi intéresser et les nouveaux joueurs et les anciens.
Bon bah c'est nickel ça.
Vous voyez dans la pub, il y a Lil Wayne justement qui faisait une pub là pour on parlait du rap, du rappeur.
Oui, Lil Wayne qui est leur ambassadeur.
Ambassadeur total. Non, il y avait aussi ce. Bon, alors moi ma seule déception c'est Blanca. Je le trouve absolument horrible dans celle-là.
T'as pas la petite salopette. Le fait qu'ils soient responsables de tout.
C'est plus sa tête, on dirait un orc de Warhammer. De Warcraft plutôt. De Warcraft 3.
C'est vrai que j'aime pas sa tête.
C'est juste ça. Bon, c'est un peu déçu, mais pour le reste.
On dirait un peu le mauvais cosplay de Hulk.
Je voudrais qu'on parle avec toi, Pierre, de quelque chose de particulier.
Oui.
Tu as rencontré un joueur de Street Fighter.
Tout à fait.
Sven, oui. Qui est aveugle.
Tout à fait.
Ah oui.
Tout à fait. Sven, alors je connais plus, en fait, je voudrais pas prononcer son nom néerlandais, de famille néerlandaise, mais c'est plutôt qu'on appelle The Blind Warrior, le guerrier aveugle. Donc c'est son pseudo Sven, The Blind Warrior. Et donc Sven est aveugle, donc c'est un néerlandais.
On voit le sujet, le reportage là en image.
Voilà, je joue contre lui, je me fais éclater évidemment. En fait, on a entendu parler de lui parce qu'il a participé à des tournois, des plus ou moins gros tournois, et il a même gagné certains de ces tournois. C'est vraiment un bon joueur. Et en fait, donc il est devenu aveugle à l'âge de 6 ans à peu près, à la suite d'une leucémie malheureusement. Et il jouait même pas à Street Fighter en fait. En fait, il n'a jamais vu Street Fighter lui-même. Il ne sait pas à quoi. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais à quoi ressemblent Ken, Ryu, les persos qui jouent principalement? Il dit, ah non, pas du tout, je me les imagine d'une certaine manière, et choses comme ça. Et il a appris tout par les sons. En fait, l'avantage de Street Fighter, c'est que chaque action a un son vraiment unique. Et donc, il a appris tout par les sons. Et donc, il sait exactement ce qui se passe. Et en plus, il stream. Du coup, il stream sans écran.
Oh, c'est énorme.
Déjà, avec tous mes sens, je panique dans lui.
Moi, il y a ce côté un peu... on dit souvent que quand on nous enlève un sens, tu sais, quand tu cherches quelque chose dans le noir, mieux vaut fermer les yeux pour mieux sentir le toucher. Et je pense que lui, en fait,
il a surdéveloppé.
C'est décuplé, ouais. Et il met un bandeau, pas parce qu'il voit un peu, vraiment, il ne voit absolument rien. C'est une perte de vue totale. Il met un bandeau parce qu'il y a des gens qui... Là, c'était pour nous démontrer qu'il y a des gens qui pensent...
Qui n'y croyait pas tellement il était fort.
Voilà, et donc il reconnaît tous les trucs. Et encore, il le fait même sans casque. Il reconnaît toutes les touches que je fais. Je fais un petit teabag. Il voit exactement ce que c'est. Enfin, c'est extrêmement impressionnant. Et il vit avec sa copine en Hollande, dans son pays qui est aussi aveugle. Et donc, ce sont deux joueurs aveugles. L'écran, c'est que pour les invités. Et il joue aussi à Pokémon, parce que c'est du tour par tour, donc ça va. Il a plein de screen readers, notamment quand il est dans les menus, de voix qui lisent tout ce qui s'affiche à l'écran pour l'aider à streamer, tout ça. Et donc, en fait, il a une voix robotique, c'est avec Windows, hein, je crois, mais qui lui dit comment faire, comment lancer. Il dit aussi que son chat l'aide à faire la mise au point sur sa caméra quand il est un peu flou, parce qu'évidemment, il n'a aucun retour, mais il y a quelque chose qui lit son chat. Enfin, c'est super en compte et il est fort en plus. Et voilà, j'espère qu'on va le revoir très vite sur Street Fighter 6. Il devrait sûrement avoir son temps d'adaptation pour.
Non, en plus, sur Street Fighter 6, hein, j'ai pas encore bien testé, mais dans le mode entraînement, en tout cas, je pense que aussi dans le mode normal, on a un système d'accessibilité.
Oui.
Et du coup, c'est vraiment aménagé de façon à ce que lorsque tu te rapproches de ton personnage adverse, ça va faire des bruits différents et qui se précipitent aussi. Ce qui fait que tu sauras davantage la distance qu'il y a entre toi et ton adversaire. Mmh. Et pareil, quand tu mets des coups, je pense qu'ils vont.
Mais j'ai vu une option, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est son précis ou quelque chose comme ça, qui augmente ça justement. Franchement, je suis presque persuadé que Sven a été consulté par Capcom, ou des joueurs comme lui ont été consultés par Capcom aussi pour aider à ça. Et ça, c'est encore plus chouette.
Reportage à retrouver.
À retrouver sur Combini, sur la chaîne YouTube de Combini. Si vous tapez Combini Sven, le joueur de Street Fighter aveugle, vous devrez très vite tomber
dessus. Très vite trouver. Bon, on va fermer cette page Street Fighter 6 qui sort ce vendredi 2 juin. Partout.
À partir de ce jour-là, on ne voit plus.
Voilà. Profitez de Kayane, vous ne la voyez pas avant très longtemps, on a de la chance. Et on va passer très très rapidement à la partie à quoi on joue. Alors, je voudrais qu'on prenne un peu de temps, il ne nous reste pas beaucoup, pour parler de Ripley, Mémoire d'une famille, de Jordan Mechner. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jordan Mechner, c'est le papa de Prince of Persia. C'est un livre assez particulier. Toi, tu l'as lu aussi?
Ouais, je l'ai lu. J'ai interviewé aussi Jordan Mechner, qui on n'a pas encore sorti l'interview, mais ça arrivera bientôt. Jordan Mechner, c'est donc le créateur de Prince of Persia, qui a un grand-père autrichien, un père autrichien, et en fait, il explique, c'est un triple portrait de lui, de son père et de son grand-père au cours des différentes années des guerres mondiales et tout, parce que ce sont des réfugiés juifs en fait, sa famille, et il explique comment il a été un peu, à trois générations, été déraciné à leur manière, que ce soit en fuyant la guerre, sur la première, la deuxième guerre, ou lui de manière plus économique en allant travailler en France, notamment avec Ubisoft pour Prince of Persia, et donc il explique un peu tout ça. C'est très touchant, c'est très très joli. C'est lui, c'est la première fois qu'il avait déjà fait des BD, mais c'est la première fois qu'il dessine et qu'il écrit tout. Et on apprend un peu plus aussi sur la fabrication de Prince of Persia, comment il a filmé son petit frère ou son grand frère, je ne sais plus, mais escaladé en parcours, et qu'il a peint par-dessus au blanco à l'époque, dans les années 80, quoi, 80-90, pour sortir Prince of Persia. Très chouette.
Mais c'est très chouette, voilà. C'est à lire. Alors, les éditions, c'est bien Shampoing, ça me fait rire à chaque fois. Mais voilà, je vous le remontre. C'est à lire pour se refaire les Prince of Persia, parce que peut-être qu'il y aura du Prince of Persia, on parlera de ça dans la prochaine émission, pendant le Ubisoft Forward. On ne désespère pas.
On espère.
Un jour.
C'est pas trop ce qu'il m'a dit, moi. Mais bon, c'est peut-être sans lui. Hein, c'est
mais
pas grave.
Peut-être sans lui, on verra. Mais moi, je ne désespère pas. Bon, OK, Mirage, c'est un peu. Assassin's Creed Mirage, c'est un peu Prince of Persia.
Ça.
Merci à vous deux d'être venus.
Merci.
Avec plaisir.
On en est arrivé au bout. Voilà, c'est triste, on parle à plein de jeux. Ça passe très très vite. Voilà, mais c'est bon. Et en plus, le mois de juin est très très dense.
Ah oui,
il y a tellement de choses.
Donc, Pierre, merci d'être venu. On te retrouve sur Combini.
On me retrouve sur Combini, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les sujets de gaming, sur Twitch aussi un peu. On a une chaîne Twitch dans laquelle on va jouer aux jeux vidéo. On va tester des jeux vidéo avec le chat. Et puis voilà, à très vite.
Kayane, on te retrouve aussi sur, Game
sur
One,
Twitch aussi, Kayane TV. Vous pourrez me voir jouer à Street Fighter 6. Et puis sur ma chaîne YouTube, Kayane TV également, où il y aura des guides sur Street Fighter 6.
Voilà, si vous voulez être un collab sur Street Fighter 6, vous allez voir Kayane. Nous, on va prendre conseil aussi, parce que moi, depuis Street Fighter 2, j'ai pas joué. Et toi, t'avais un petit message.
J'ai un tout petit message. Un très bon anniversaire à mon petit frère Julien.
Oh,
c'est 20 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Julien.
Bon anniversaire.
Voilà. Le mot de la fin pour Julien. La chance. Merci à vous tous d'avoir regardé Multijoueur. Eh bien, ou sur la chaîne Tech & Co, ou en replay, si vous voulez, sur la chaîne YouTube et sur le site, la plateforme BFM RMC, en replay, ou alors en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes. Et on se retrouve très, très vite pour parler d'autres jeux qui arrivent au mois de juin. Au hasard, peut-être un petit Diablo 4 à la prochaine. Allez, ciao, ciao, à très vite.